Bonjour, voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute!
C'est un personnage coloré, aux idées bien arrêtées. Il n'a jamais hésité à prendre la défense des travailleurs d'ici, parfois démunis, parfois exploités. Ici Martin Labrosse, à Aujourd'hui l'Histoire, Michel Chartrand.
Ça, c'est le curé Lalanne qui faisait ça dans l'autre paroisse d'Asbestos, qui disait aux femmes de dire à leur mari de rentrer, puis il faisait la même chose avec les gars, puis il le faisait signer des déclarations.
Ça a été votre rencontre avec la police provinciale?
Ça a été le baptême, ça, puis la confirmation, comme disait Gérard Pelletier. On a été confirmé dans le syndicaliste à Asbestos. Après ça, on a trouvé qu'il y avait des bouts qui étaient plus tranquilles.
Un extrait de l'émission Zone libre qui a été diffusée à la télé de Radio-Canada, c'était en 1990. Michel Chartrand est né en décembre 1916, le 13e de 14 enfants. Avant d'arriver au syndicalisme, il a notamment travaillé avec son père comme typographe à l'imprimerie Stella. Son implication passera par la jeunesse indépendante catholique et l'Action libérale nationale notamment.
Il semble qu'avec lui, il n'y a pas de milieu. Ou bien on est violemment pour, ou bien on est violemment contre. Et lui, il est le premier à rire de toutes ces controverses qu'il soulève. Mesdames et messieurs, Michel Chartrand.
Salut, camarade. Salut, monsieur.
Bonsoir, monsieur Chartrand.
Asseyez-vous et soyez le bienvenu au couche-tard. Oh, que c'est gentil.
C'est une excellente émission. Là. Je vous ai apporté deux cigares de Cuba. Meilleurs, ils les gardent pour chez eux.
Oui.
Monsieur Chartrand, doit-on vous appeler monsieur l'imprimeur ou monsieur le président du Parti socialiste du Québec?
Ah, ça, on m'a toujours dit qu'en bonne société, on ne parle pas de politique.
Bon.
D'ailleurs, je ne suis plus président du Parti socialiste du Québec.
Et depuis quand? C'est tout récent, là?
Depuis 4-5 jours.
Mais alors, ça n'a pas été annoncé dans les journaux.
Non, c'est pas nécessaire. On va le dire. On va le dire bientôt, puis
vous
on va
êtes
le dire
en train
fort.
De le dire en ce moment, là.
Afin que ceux qui sont de la gauche puissent adhérer au parti maintenant.
Ça leur ouvre la porte.
Ben, je comprends.
Ouais, ouais.
Ça, il y en a qui vont avoir la chance d'être président maintenant que tu es parti.
C'est une espèce de primeur pour nous.
Certainement, les couche-tard méritent ça. C'est des drôles.
Un imprimeur qui nous donne une primeur.
Un imprimeur qui nous donne ça. Une primeur.
Un imprimeur qui nous donne une primeur pour nous parler de l'homme. On a la chance d'avoir avec nous Suzanne Geneviève Chartrand, didacticienne du français, mais aussi fille de Michel de Chartrand. Madame Chartrand, bonjour.
Bonjour, monsieur.
De quoi vous occupez votre temps maintenant? Vous êtes porte-parole d'un regroupement?
D'un collectif citoyen qui s'appelle Debout pour l'école, parce qu'on pense, moi, ça fait 55 ans que je suis dans le monde de l'éducation. J'ai commencé à enseigner en 1967, l'année de l'Expo, dans les grandes polyvalentes. Et l'éducation, le système d'éducation se dégrade à tout point de vue.
Ouais.
Sa démocratie qui n'existe plus, les conditions de travail incroyablement mauvaises de tous les personnels, les conditions d'apprentissage des enfants extrêmement difficiles et une ségrégation scolaire insoutenable.
Et on vous entend, on entend votre engagement, puis j'entends votre père aussi, pas bien, bien loin. Qu'est-ce qui vous a laissé, votre père? Parce que là, on l'a entendu dans un extrait des couche-tard avec Jacques Normand et Roger Beaulieu, c'est un extrait de 1966. Il était ça aussi, votre père. Il était de toutes les tribunes, autant, oui, dans son rôle de syndicaliste, de chef syndical, mais aussi, il était à la télé, on le voyait un peu partout. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de l'entendre là, comme ça ce matin?
Il est très présent encore dans ma vie, d'une part, parce que j'ai passé 13 ans à me battre à Montréal pour qu'on ait un endroit à sa mémoire. On a inauguré au mois d'août dernier la promenade Michel Chartrand, qui est un endroit absolument magnifique le long du fleuve. Donc, ça ne m'étonne pas parce qu'il est présent dans ma vie encore assez fortement. Et très jeune, mon père nous a appris, quand on avait 4-5 ans, que tous les humains étaient respectables et devaient être respectés. Qu'on soit un ouvrier, qu'on soit un quêteux, ou qu'on soit un avocat, pour prendre une catégorie de gens qu'il n'aime même pas particulièrement. Et donc, ça, c'est une valeur extrêmement importante, et je pense que tous les enfants de la famille l'ont adopté, cette famille-là, mais il se trouve que pour toutes sortes de raisons, on a été plus proches, lui et moi, que mes frères et sœurs l'ont été. On a travaillé ensemble, on a fondé la Fondation de l'aide aux travailleurs accidentés en 83 ensemble, on a voyagé en Europe ensemble. J'ai travaillé au Conseil central de Montréal quelque temps, il a été très proche du comité Québec République Chili que nous avons fondée après le coup d'État contre le gouvernement de Salvador Allende. Donc, c'est ça. Et jusqu'à sa mort, on a été très proches et on a beaucoup parlé. Et on s'est des fois pas du tout entendu sur certaines choses, mais de façon générale, ses grandes valeurs sont aussi les miennes.
Oui. Je veux revenir au début de son parcours. J'ai lu, et ça m'a grandement étonné, que votre père a même songé à la vie monastique.
Non pas seulement songé.
Il est entré à Oka.
Il est rentré à Oka, il y aurait vécu toute sa vie. Et c'est vraiment de force qu'on l'a fait sortir de là parce qu'il était très malade. C'était une vie extrêmement difficile. Mm-hmm. C'était un sommeil coupé aux 4 heures, oui, oui. Un travail, etc. Et il ne voulait pas sortir de là, mais finalement, ça a pris l'autorité du responsable du monastère qui a appelé ses parents, qui ont dit « Vous venez le chercher parce que sa vie est en danger. » Alors, et après, il est rentré chez ses parents, donc il est le 13e, comme vous avez dit,
de 14.
De 14. Et puis, il avait donc 18 ans, si ma mémoire est bonne, et il était très malade, donc il a passé, d'après ce que ma tante m'a dit, la 14e que j'ai connue et qui est morte à 101 ans, elle m'a dit, pendant 6 mois, il a parlé à personne, puis il était dévasté de ne plus être à Oka et de penser qu'il ne pouvait plus y aller. Et après, il s'est remis sur pied, puis il fallait bien qu'il gagne sa vie, donc il a appris le métier de typographe et il a travaillé comme imprimeur. Je voudrais juste dire que quand on dit Michel Chartrand syndicaliste, c'est vraiment très limité. Il a été moins longtemps employé des syndicats qu'il a travaillé dans l'imprimerie et il a travaillé beaucoup dans le mouvement coopératif aussi. Et il a fini, après avoir laissé la direction du Conseil central de Montréal à la Caisse populaire qui s'appelait des syndicats nationaux à ce moment-là, donc il a été aussi dans le mouvement coopératif de façon importante. Alors, il n'a pas été que un employé du syndicat, et contrairement à beaucoup de ceux qu'on appelle syndicalistes aujourd'hui, c'est des gens qui font carrière dans une organisation syndicale, ouais. Ce que mon père n'a jamais fait.
D'où ça vient, ça, ce souci de l'autre? Parce que je l'ai entendu dans plusieurs extraits, il y avait quand même un attrait là, envers lui. Les gens venaient le voir, disaient, une augmentation de salaire, on peut-tu demander ça? On peut-tu négocier ça? D'où ça venait, ça?
Je pense que mon grand-père était très profondément chrétien et catholique et plutôt réactionnaire et, venait d'un milieu relatif très, très modeste. Et puis, les valeurs de la chrétienté étaient quand même importantes, étaient très importantes. Et très tôt, à l'âge de, je pense, 20 ans, il s'est retrouvé à Amos avec l'ancêtre de la JOC, Jeunesse ouvrière catholique, et a vu que des travailleurs mouraient presque littéralement ou en tout cas, leur santé était extrêmement handicapée à cause d'empoisonnement par les mines. Et ensuite, en 1948, il a lu un article dans la revue Relations, la revue des Jésuites, de M. Burton, qui montrait que les maladies industrielles existaient et que tous les travailleurs qui travaillaient dans des secteurs liés aux mines ou à d'autres étaient leur santé était en danger. Et là, on a appelé ça l'abattoir de, j'oublie le nom en ce moment, c'est une petite ville de l'Outaouais. Et Michel a très jeune, s'est rendu compte que la vie des travailleurs, c'était pas juste d'être exploité sur le plan du salaire, mais c'était aussi de risquer leur vie et leur peau. Et si on risque sa vie, on risque la vie de sa famille, parce qu'à ce moment-là, c'était surtout les hommes qui étaient la source de revenus dans une famille. Donc, pour lui, ça l'a indigné. C'est un homme indigné, c'est un homme effectivement en colère, et pour qui la justice sociale est fondamentale. Et il a vu que dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons et nous vivions, il n'y en avait pas de justice sociale.
La santé des travailleurs, la maladie, ça a été une de ces grandes batailles.
La santé, sécurité au travail, absolument. Il a fait en sorte que la CSN, très tardivement, a fondé... Enfin, il a été le premier fondateur du comité de santé, sécurité au travail. Il a fondé la FATA avec d'autres, un ancien militant et dirigeant syndical des métallos, parce qu'il voyait même que même dans certains syndicats, on ne s'occupait pas de ça, la santé, sécurité au travail. Et tous les non-syndiqués, il y en a quand même pas mal au Québec, ils n'en avaient pas de recours devant la CSST. Puis, s'ils attrapaient une maladie industrielle, ils passaient leur vie ensuite malade, mais personne ne s'occupait d'eux. Donc, la FATA, c'était pour s'occuper de ces gens-là. Et c'était quelque chose. Alors, je reviens sur les valeurs chrétiennes, effectivement. Puis, Pidou en avait aussi, mais ça ne l'a pas empêché de pas dénoncer le nazisme. Et puis, on pourrait nommer tous les archevêques et évêques du Québec qui ont été effectivement duplessistes, etc. Mais les valeurs chrétiennes qui ont inspiré mon père et ma mère, c'est plutôt celle de la justice sociale et celle de l'équité, c'est-à-dire de l'égalité des êtres humains. On est tous égaux en droit, dit la Déclaration des droits de l'homme. Alors, mais c'est pas vrai dans les sociétés dans lesquelles on vit. On n'est pas du tout égaux en droit ni en liberté. C'était donc de se battre contre tout ce qui opprimait la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté d'action. Le nombre de manifestations... Moi, j'ai fait mes premières manifestations à l'âge de 10 ans à la Macasa pour le désarmement nucléaire. Mes parents étaient profondément pacifistes. Ils n'auraient pas porté la cocarde rouge, mais blanche en ce moment, parce qu'on était profondément contre toutes les guerres. Aucune ne se justifiait. Et cet engagement-là pacifiste renvoie aussi à une vision de l'humain, de l'homme qui a ses assises dans un christianisme social, si vous voulez.
Je veux vous le refaire entendre. Cette fois, c'est dans un bulletin de radio régional au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'appelait « Présent régional ». Il parle justement de la santé des travailleurs. On va entendre votre père justement dans un extrait dans lequel il parle justement de la méconnaissance des maladies dans les industries québécoises.
Le fond du problème dans la province de Québec, que M. Forgette a l'air à vouloir esquiver ou nous cacher, c'est qu'il n'y a pas de médecins qui connaissent la médecine professionnelle, la médecine industrielle ou les maladies professionnelles dans la province de Québec. Ce n'est pas enseigné dans aucune université de la province de Québec. Les grands médecins dans les grands hôpitaux, ils ne sont pas préparés à ça, puis ils nous l'ont dit dans les enquêtes du coroner, comme à la Canadian Copper Refinery à Montréal. Les médecins nous ont dit, nous autres, on n'est pas préparés à recevoir des intoxiqués.
Est-ce qu'il amenait ses combats à la maison? Parce qu'on le sent très impliqué, on le sent très, très empathique de la situation que ces travailleurs-là vivent. Est-ce qu'il ramenait ça chez vous?
Ça dépend de ce que vous appelez ramener ça. Si c'est,
est-ce qu'il continuait à vivre ses émotions?
Absolument non, absolument pas. C'était un vrai père qui aimait beaucoup jouer. On a énormément joué, on a ri avec lui, on a eu des parties de chatouilles et des parties de toutes sortes de choses. Donc non, il n'arrivait pas pour nous endoctriner en nous disant ta-ta-ta-ta-ta. Mais effectivement, ses valeurs, on les sentait entre autres à table. À table, on sert d'abord le voisin avant de se servir, on dit merci. Il disait, votre mère n'est pas votre servante, mon père n'a jamais été au bout de la table, c'était ma mère, et etc. Il y avait plein de choses dans le concret qui faisait qu'on se sentait très, très jeune, à 5 ans, 8 ans, 10 ans, comment on pouvait vivre correctement en société, de façon solidaire, de façon solidaire, à s'entraider, etc. Bien sûr qu'il nous parlait. Quand il part à Murdochville, je veux dire, et ma mère va le rejoindre après, il risque sa vie tous les jours. Tous les jours, c'est pas des racontages. Ça. Je veux dire, moi, je vivais. Alors, mes parents nous ont envoyé un peu partout où ils ont pu pour qu'on nous garde. C'était en plein été, on n'allait pas à l'école. Et j'étais chez mon parrain-marraine à côté de chez Gérard Pelletier. Gérard Pelletier était déjà à Cité Libre, etc. Il me racontait tous les jours ce qui se passait à Cité Libre. C'était assez pour en avoir froid dans le dos puis avoir peur. Tous les jours, il pouvait mourir. Donc, il a mis sa vie en danger beaucoup, surtout durant le duplessisme, dans toutes les batailles syndicales qu'il a menées. Et quand il était allé là comme militant. Personne ne l'envoyait là. Quand il était à l'asbestos, ils sont venus le chercher à la maison. Puis il a dit à Simone, je reviens dans 2-3 jours, t'en fais pas mon chou. Il est revenu 3 semaines après ou 2 semaines après. Bon, il fallait se débrouiller.
Ouais.
Mais ce qu'il faisait, on le savait en gros. Si ça nous intéressait, on posait plus de questions. Mais c'est pas vrai qu'il nous imposait à la maison sa vie militante intense à l'extérieur. Non.
Mais quand même, cette vie militante-là pouvait avoir des répercussions à la maison. La prison, par exemple.
Absolument. Alors, il a été mis en prison des tonnes de fois. La première fois, je pense que j'avais 4-5 ans, j'étais dans le salon, mais ma mère était avec mes soeurs dans le vivoir, et j'entends la radio de Radio-Canada, « Michel Chartrand a été mis sous les verrous. » J'arrive en courant, « Papa a été mis sous les verrous! » Ma mère se met à pleurer, mes soeurs se mettent à pleurer. Alors, j'apprends qu'il est mis en prison. Bon, on apprend que son père a été en prison dans les années 52-53. Je veux dire, c'est pas normal d'aller en prison. Il y a juste les criminels qui vont en prison dans notre tête d'enfant. Là. Et donc, on apprend ça, mais c'était des tonnes de fois. Je veux dire, j'avais toujours dit Duplessis, et c'est vrai, a mis Michel Chartrand 7 fois en prison, toujours de façon tout à fait illégale, c'est-à-dire de façon totalement abusive, sans aucune législation, il avait brimé aucune loi. Mais en fait, il est allé beaucoup plus que ça en prison. J'ai calculé la dernière fois, on était rendu 12 fois, dont les 4 mois gentils durant la loi des mesures de guerre que le gouvernement fédéral nous a imposé. Il y a eu un procès, puis il était acquitté de tout. Je veux dire, on l'avait accusé d'être membre du FLQ, mais c'est complètement absurde. Je veux dire, il n'a pas été membre d'aucun parti terroriste de sa vie, ni d'aucun parti de ce type-là. Alors, on a dit plein de choses sur Michel Chartrand, et je suis assez étonnée à quel point on a véhiculé plein de choses qui étaient fausses, et on a grossi son caractère de celui qui criait tout le temps. Mais je veux dire, Michel passait des heures en silence à lire de la poésie puis à écouter de la musique classique. Des heures et des heures. Je veux dire, c'était un amoureux de la nature, c'était un amoureux de la poésie, c'était un amoureux... Il pouvait vous réciter du Paul Éluard comme du René Char, etc. Alors, il y a toutes sortes de Michel Chartrand. Et puis, c'est un père très, très, comme j'ai dit tout à l'heure, très affectueux, très, très rigolo et très présent. Bon, donc, l'idée de celui qui crie tout le temps, là, non, il faudrait en sortir un peu.
Bon, voilà qui est dit. J'aimerais qu'on entende votre mère, parce qu'à l'émission Femmes d'aujourd'hui, c'était en octobre 68, on a posé la question à Simone, qui est Michel Chartrand? Écoutez bien sa réponse.
Et Michel Chartrand, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe 24 heures par jour. Je m'ennuierai jamais. Je me suis jamais ennuyée parce que c'est un homme qui déconcerte toujours, qui est pas routinier, qui fait rien par habitude et qui est étonnant.
De quelle manière est-ce qu'il participe à la vie de la maison?
Je pense qu'il il y a beaucoup d'imagination quand il arrive dans la maison. Il déplace les choses, il décide de faire des repas ou de faire des salades. Il dit mettre un tonnerre d'herbes ou d'ingrédients, des choses qui se font pas, des choses qui sont pas dans les recettes. Il est drôle. Je pense que sa part à la maison, c'est d'être... de détendre tout le monde, d'être vraiment drôle, d'être amusant, d'aimer beaucoup les jeunes enfants, les petits-enfants, jusqu'au moment où il peut faire une colère.
Qu'est-ce qui le fait rire dans la vie?
Aller au cinéma avec lui, c'est une chose que j'aime pas tellement, parce qu'il rit toujours au moment où personne rit. Et au moment où tout le monde rit, il trouve ça tragique, dans le sens qu'il trouve pourquoi les gens rient pour une chose comme ça. Dans le fond, c'est grave. Il y a une espèce de pudeur chez lui qui est étonnante, parce qu'on dirait qu'il est très effronté. Et dans le fond, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de pudeur.
Le reconnaissez-vous?
Oui, oui. Parler de paradoxe, je n'aurais pas utilisé ce mot-là. C'est-à-dire, dans l'opinion publique, oui, c'est un paradoxe. Dans la réalité, non. C'est un tempérament qu'on dirait entier, avec toutes sortes de facettes, comme j'ai dit, celle d'une douceur extrême et celle aussi d'une violence extrême, parce que la société dans laquelle on vit est violente. Mm-hmm. Et Michel est révolté depuis très jeune contre ce système capitaliste, contre le système impérialiste qui a imposé ses dictatures partout, entre autres en Amérique latine. Il était très proche de ça. Il a lu énormément. Il n'a pas juste lu de la poésie et de la littérature, mais il a lu aussi beaucoup d'essais politiques, de sociologues, de politologues, et il a vu comment le capitalisme se développait à l'échelle de la planète durant les années 50, 60, 70, 80, 90. Et donc, il a toujours considéré qu'il fallait se battre contre ce système-là. C'est un militant, c'est un lutteur, c'est quelqu'un qui n'accepte pas ce système-là d'exploitation et qui non seulement exploite les travailleurs et les travailleuses, mais qui fait en sorte que certains laissent leur vie au travail.
Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous disiez, c'est pas mon père qui était assis au bout de la table, c'était ma mère. Et j'ai lu que votre père était plus féministe que les féministes.
Ben, plus féministe, le mot féministe est tellement large qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire. Je veux dire, être féministe dans les années 40, on sait ce que ça veut dire. C'est des femmes comme ma mère, Madame Casgrain, ma mère et d'autres, se sont battues pour le droit de vote. Alors, c'était des batailles, ça, de fond. Et ensuite, elles ont continué, les femmes, à se battre pour des droits égaux. Et il faut encore se battre parce que c'est loin d'être égaux sur toute la ligne. Et Michel a toujours été partie prenante de ces batailles-là. Il n'était peut-être pas plus féministe que les vrais féministes, mais il était plus féministe que les féministes de façade. Oui, sûrement. Et il ne s'est jamais dit féministe, il s'est jamais dit pacifiste. C'était comme ça. Ça faisait partie de ses convictions profondes et de ses luttes au quotidien, je veux dire. Il a fait des choses que personne n'a faites. Je veux dire, on a fait, par exemple, des manifestations où on se faisait arrêter sans aucune raison. Je veux dire, sous Duplessis, mais même après. Toutes les manifestations du 1er mai, McGill français, etc., contre la loi 63 sur la langue française, etc., je veux dire, c'était des manifestations légales. Ça fait partie des droits de l'homme, le droit de manifester correctement. Exactement. Je veux dire, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Je veux dire, on est juste là, puis on est ensemble. Et puis les flics nous arrivent, puis nous courent après, puis ils matraquent ceux qui peuvent matraquer. Ça, c'est tout à fait inacceptable dans une société qui se dit démocratique et où les droits sont censés être respectés. Ils ne le sont pas. Ils sont respectés quand ça fait l'affaire des dominants.
Comment il réagissait, votre père, face à tout ça, à ces situations-là, qui se sont répétées dans son cas, vous l'avez dit tout à l'heure?
Bien, par la colère, par l'indignation, par la prise de parole, par l'action. C'est comme ça qu'il n'y avait pas d'autre façon de réagir, puis je pense qu'il n'y en a toujours pas d'autre façon de réagir. Il faut dénoncer ça, il faut, et puis il faut faire en sorte que, selon nos compétences et notre champ d'action, bien, on intervienne et puis qu'on ne se croise pas les bras en disant « il n'y a rien à faire ». Non, il y a toujours quelque chose à faire.
Il faut continuer.
Il faut continuer.
Ça, il avait compris.
Il a fait ça. Je veux dire, j'ai vu récemment sur le web, justement, une conférence qu'il avait faite au cégep Édouard Montpetit à Longueuil, devant des jeunes, donc de début de la vingtaine, quand il faisait sa grande tournée à 80 quelques années sur le revenu de citoyenneté. Et il est d'un pédagogue, il m'a impressionné, moi qui le connais bien, parce qu'il sait expliquer les choses complexes de façon extrêmement simple et extrêmement juste. Et on voit les jeunes, mais ils sont captivés. Les jeunes ont 20 ans, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils n'ont jamais entendu parler de comment se reproduisent les inégalités sociales, entre autres par le salaire. Et donc, ils sont impressionnés par cette idée de revenu de citoyenneté. Donc, il a fait une tournée à travers le Québec à 80, 82, 84 ans pour parler du revenu de citoyenneté. Et puis, il s'est présenté très tard, tardivement aussi, quand il y avait 80 ans, dans le comté où M. Bouchard se présentait, parce que lui, c'était déficit zéro, alors que le slogan de Michel sur ses affiches, c'était « pauvreté zéro ». Donc, la question de la pauvreté était essentielle aussi dans ces luttes. Donc, lutte pour la démocratie, lutte contre l'exploitation capitaliste des travailleurs, lutte pour la santé et lutte pour les droits et libertés de tous et puis le droit de parole.
C'est tout un personnage. Est-ce qu'il y avait de l'usure à la fin? Est-ce que vous avez senti à un moment donné que...
Non, il était malade à la fin. Il avait un cancer, même s'il ne se faisait pas traiter pour son cancer. Il avait une méthode très personnelle pour le traiter. Il buvait du vin blanc. Mais jusqu'à quelques jours... Moi, j'étais très proche de lui les mois avant sa mort. Je vivais à Québec, puis je venais toutes les fins de semaine. Et les quelques derniers mois, il était dans une maison où il pouvait avoir son frigo, sa radio, ses journaux. On était là, les petits-enfants à le visiter constamment. Il était plus faible, mais il avait le même esprit. Et puis, peu à peu, la douleur était tellement intense que on a demandé est-ce qu'il y ait un peu plus de morphine. Ouais. Et il est mort tranquillement, sans même s'en rendre compte. J'étais à côté de lui, mais il s'en rendait plus compte depuis 24 heures à peu près. Non, il n'est pas mort du tout en étant déçu de la vie ou en disant ça n'a rien donné ou j'aurais pas dû faire ça. Non, je pense qu'il assumait sa vie et il a assumé même avec le sourire et la bonne humeur jusqu'à peu près au dernier temps. Parce qu'au dernier temps, quand on arrivait dans sa petite chambre, il nous parlait de ce qu'il venait de lire. Et puis, il nous offrait un verre de vin blanc. Et puis, on rigolait un peu. Puis, ses vieux amis venaient le voir, tout ça. Donc, non, il n'y avait pas d'amertume chez Michel Chartrand.
Vous m'avez dit au tout début de notre entretien, avant même qu'on commence, votre père disait « on est né pour être heureux ».
Absolument. Et il a pensé ça toute sa vie.
Il l'a
été
heureux?
Moi, je pense que oui. Oui, oui. Malgré, les incarcérations, puis la pauvreté. Je veux dire, pendant un bout de temps, Michel n'avait pas de travail. Madame Casgrain nous apportait des boîtes de lait en poudre parce qu'il fallait bien quelque chose. Je veux dire, on n'a pas été riches jamais, mais des fois, on était pauvres même. Mais c'était jamais vu comme un drame parce qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Il y avait la nature, il y avait de la musique, il y avait autre chose. Je pense que c'est quelqu'un qui vivait ça. On est né pour être heureux, puis il voudrait que tout le monde soit heureux, y compris sa femme et ses enfants. Et ses amis.
Suzanne Geneviève Chartrand, merci beaucoup pour ce voyage, ce parcours-là. Je rappelle que vous êtes didacticienne du français, maintenant porte-parole de Debout pour l'école. On suivra les actions de tout ça. Merci d'être passé nous voir.
Merci de m'avoir invité.
Ici Martin Labrosse. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.
Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.